Bienvenue. On a tous cette image en tête, ou peut-être même ce souvenir de la veille. La fin de journée, la fatigue, les enfants qui tournent un peu en rond, et ce réflexe presque instinctif de tendre une tablette ou d'allumer la télé, juste pour avoir 5 minutes de calme, quoi, le temps de lancer le dîner. C'est une réalité pour énormément de familles, et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de culpabiliser. Au contraire, on va se plonger ensemble dans un guide parental très complet sur l'usage des écrans chez les tout-petits de 0 à 6 ans. Notre mission, c'est pas de faire une liste d'interdits, mais de comprendre la logique derrière les recommandations. Pourquoi est-ce que cette période 0-6 ans est si particulière? Qu'est-ce qui se joue de si fondamental à cet âge?
C'est la question essentielle, en effet. Pour le comprendre, il faut visualiser ce qui se passe dans le cerveau d'un jeune enfant. Durant ces 6 premières années, c'est une véritable explosion, une ébullition neuronale, comme le disent les scientifiques. Chaque seconde, des millions de connexions se créent. Ce sont les fondations qui sont en train d'être coulées. Les fondations du langage, de la motricité, des relations aux autres, de la concentration. C'est une période d'une plasticité incroyable, où le cerveau est une éponge. Notre analyse va donc chercher à comprendre comment les écrans interagissent avec ce chantier monumental.
D'accord, donc avant même de parler de limiter les écrans, le guide propose en fait de renverser la question. Au lieu de se focaliser sur combien de minutes y a ce temps, il nous invite à nous demander si 4 besoins fondamentaux de l'enfant sont bien comblés. C'est un changement de perspective assez puissant.
Et que le problème n'est pas tant l'écran en soi, mais ce qu'il remplace. Il parle de 4 nutriments essentiels au développement. Le premier, c'est l'interaction humaine directe. Les regards, les sourires, le fait de parler et d'avoir une réponse. Le deuxième, c'est l'exploration par le mouvement et les 5 sens. Toucher, goûter, grimper. C'est comme ça qu'un enfant cartographie le monde.
Le troisième serait le langage, appris dans l'échange vivant, pas en écoutant passivement. Et le quatrième, le jeu libre, l'imagination.
Voilà.
La fameuse capacité à transformer un carton en fusée.
Langage et imagination. Le guide soutient que, si ces 4 piliers sont solides, la question du temps d'écran devient beaucoup moins anxiogène. Le vrai danger, c'est quand l'écran vient cannibaliser le temps alloué à ses activités. Il ne s'agit pas de diaboliser l'objet, mais de prendre conscience de cet effet de déplacement, de ce qu'il vole, en fait, au développement. Un enfant devant un écran, il ne bouge pas, il ne parle pas, ne manipule pas, n'invente pas. Il est passif.
Et cette passivité, même devant un programme qu'on pense éducatif, c'est un problème. On entend souvent ça. Oui, mais il apprend les couleurs avec ce dessin animé.
C'est un point crucial que le guide démonte assez bien. Avant 3 ans, un enfant n'apprend pas de manière abstraite à partir d'une image en 2D. Il apprend en manipulant un objet, en le nommant avec un adulte, en le voyant sous tous ses angles. L'application la plus éducative du monde ne s'adaptera jamais à son regard, elle n'y répondra pas à ses babillages, elle lui renverra pas le reflet de ses émotions. Cet échange-là est irremplaçable. Et quand il manque, les sources sont claires. On observe des retards de langage, des difficultés de concentration, un sommeil de moins bonne qualité.
Donc, si on suit cette logique, les recommandations par âge deviennent beaucoup plus claires. Pour les 0-3 ans, la conclusion est sans appel. Pas d'écran du tout. Ce n'est pas une punition, c'est juste qu'ils ont infiniment mieux à faire pour leur développement.
C'est l'idée. Leur travail à cet âge, c'est de construire leur cerveau avec le monde réel. Après 3 ans, entre 3 et 6, la porte s'entrouvre un peu. Le guide parle d'un maximum de 30 minutes par jour. Et surtout, jamais seul. L'accompagnement d'un adulte est présenté comme non négociable. C'est lui qui fait le pont entre l'écran et la réalité.
Et pour traduire ça en réflexe quotidien, le guide s'appuie sur la règle des 4 pas de la psychologue Sabine Duflo. Et là, ça devient très concret. Le premier pas, pas d'écran le matin. Honnêtement, ça peut sembler difficile pour des parents qui courent. Pourquoi c'est si important?
Veille calme pour émerger tranquillement. Le bombarder d'images et de sons rapides dès le réveil, c'est le mettre en état de surstimulation immédiate. Ça peut rendre plus difficile la concentration plus tard, à l'école ou à la crèche. L'idée, c'est de privilégier des rituels lents. Un câlin, le petit déjeuner ensemble.
Logique. Le deuxième pas, c'est pas d'écran pendant les repas. Celui-là, on le sent plus intuitivement, hein.
Oui, car le repas est un des rares moments sacrés de la journée pour l'échange. C'est là qu'on se raconte, qu'on apprend à attendre son tour. L'écran à table, il isole chaque membre de la famille dans sa bulle. Le troisième pas, il est crucial. Pas d'écran avant de dormir. Et le quatrième, pas dans la chambre, qui doit rester un cocon un lieu de calme.
Vous avez mentionné l'impact sur le sommeil, et ça, c'est un point d'angoisse pour presque tous les parents. Le guide semble traiter ça comme une priorité absolue. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau d'un enfant qui regarde un écran avant de dormir ?
Le sommeil, c'est le grand architecte du cerveau du jeune enfant. C'est la nuit que les apprentissages se consolident, que l'hormone de croissance est libérée. Or, les écrans sont de véritables saboteurs de sommeil, pour trois raisons. La première, c'est la fameuse lumière bleue. Cette lumière, elle envoie un message direct au cerveau. C'est le jour, reste éveillé. Elle bloque la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche l'endormissement.
Donc, même si l'enfant a l'air fatigué, son corps reçoit l'ordre inverse.
Exactement. La deuxième raison, c'est le contenu lui-même. Les dessins animés, même les plus doux, sont stimulants. Ils excitent le système nerveux au moment où il devrait ralentir. Et la troisième raison est purement mécanique. L'écran retarde l'heure du coucher et ça grignote un temps de sommeil qui est précieux et irrécupérable. Pour protéger ce pilier, le guide insiste sur une chose, la routine. Le cerveau d'un enfant adore la prévisibilité. Un rituel calme, répété chaque soir, bain, pyjama, histoire, câlin, c'est le signal le plus puissant pour lui dire que c'est l'heure de se laisser aller au sommeil.
D'accord, on a posé le cadre, les risques. Mais si on enlève l'écran, il faut bien le remplacer. Surtout dans les moments de crise ou d'épuisement. Quelles sont les alternatives concrètes qui sont proposées ?
C'est la partie la plus constructive du guide. Il ne s'agit pas juste de dire non, mais de proposer des oui. Et les alternatives sont souvent d'une simplicité désarmante, car elles nourrissent justement les quatre besoins. On parle de lire ou d'inventer des histoires, de cuisiner ensemble. Même un enfant de 2 ans peut laver les légumes, construire une cabane avec les coussins, danser sur de la musique, faire un puzzle, sortir observer les fourmis. L'idée, c'est pas de transformer les parents en animateurs de centres aérés, mais de se rappeler que l'attention d'un parent, même pour 5 minutes, est souvent plus nourrissante qu'une demi-heure d'écran.
Le guide met aussi en garde contre certains usages qui semblent être de fausses bonnes idées. Par exemple, utiliser l'écran pour calmer une crise. C'est tentant, hein, avouons-le. Quelle est la contrepartie à long terme de cette paix à court terme ?
Le risque, c'est d'empêcher l'enfant d'apprendre une compétence fondamentale, gérer ses émotions. Une crise, une frustration, c'est une émotion qui déborde. En y répondant systématiquement par un écran, on lui apprend à fuir son émotion plutôt qu'à la comprendre, la nommer. On crée une sorte de tétine numérique. Le rôle de l'adulte, c'est d'accompagner l'émotion. Je vois que tu es très en colère. Pas de l'éteindre avec un interrupteur.
2 autres pièges sont mentionnés. La télé en bruit de fond et l'écran comme récompense.
Oui, la télé en fond sonore est très nocive. Le cerveau du tout-petit n'arrive pas à faire le tri entre ce bruit et la voix de ses parents. Ça perturbe massivement son acquisition du langage, sa concentration. Quant à l'écran récompense, si tu es sage, tu auras la tablette, c'est le meilleur moyen d'en faire un objet de désir absolu, de lui donner une valeur émotionnelle démesurée, quoi. Ça transforme une activité neutre en Graal.
Tout ça nous ramène au rôle des parents. Le guide est très clair là-dessus. Les enfants apprennent par imitation. Si nous-mêmes, on a le nez sur le téléphone pendant le repas, le message est paradoxal.
C'est le point le plus difficile, car il nous interroge sur nos propres habitudes. L'enfant observe. Un parent qui pose son téléphone en rentrant, qui coupe ses notifications pendant les jeux, qui explique ce qu'il fait dessus. Je regarde le chemin pour aller chez mamie. Il envoie un message très puissant. Je suis le maître de l'outil et non l'inverse. Et surtout, tu es ma priorité. Ce temps de qualité ne se mesure pas en heures, mais en disponibilité réelle. 10 minutes de pleine présence, c'est plus constructif qu'une heure de présence distraite.
Admettons qu'on suive ces règles et qu'on décide d'autoriser un temps d'écran pour un enfant de 4 ou 5 ans. Le guide insiste sur le fait que tous les contenus sont loin de se valoir. Comment on distingue un bon programme d'un mauvais ?
Le guide donne des critères très précis. Un bon contenu pour cet âge est avant tout lent. Le rythme doit permettre à l'enfant de traiter l'information, sans enchaînement frénétique d'images ou de sons stridents. Il doit être court, 5 à 10 minutes, ce qui correspond à leur capacité de concentration. Et enfin, il doit être simple, avec une histoire claire et des personnages bienveillants. La répétition est un plus, ils adorent revoir les mêmes choses.
C'est assez à l'opposé de ce qu'on trouve sur YouTube, par exemple, où tout est fait pour capter l'attention, avec des couleurs vives, un rythme effréné.
Exactement. Ces plateformes sont conçues pour retenir l'attention, pas pour respecter le rythme cérébral d'un enfant. Les pièges à éviter, ce sont donc ces dessins animés trop rapides, trop bruyants, et surtout les algorithmes qui enferment l'enfant dans une bulle de consommation. Et même avec le meilleur programme du monde, la règle d'or reste la même, la présence d'un adulte à côté. pour commenter, rassurer, faire le pont avec la vraie vie. Oh, regarde, le petit lapin mange une carotte comme toi tout à l'heure.
Finalement, si on prend un peu de recul, la philosophie de ce guide n'est pas de prôner une parentalité parfaite et sans aucun écran, ce qui semble irréaliste. C'est plutôt une invitation à une utilisation plus consciente, plus intentionnelle.
C'est vraiment ça. L'enjeu n'est pas la perfection, mais la conscience. Il s'agit de protéger une fenêtre de développement extraordinairement précieuse, où l'interaction humaine est, et restera toujours, le moteur le plus puissant. Tout se résume finalement à quelques principes de bon sens. Protéger totalement le cerveau avant 3 ans. Pour les 3-6 ans, garder ce temps court, partagé et intentionnel, et sanctuariser les moments clés. Le regard, la parole, le jeu partagé avec un parent, ce sont les meilleurs stimulants qui soient. Et ils sont gratuits.
Et pour ouvrir la réflexion, une dernière idée que le guide effleure, celle des ressources numériques sans écran, comme les boîtes à histoires ou les podcasts pour enfants. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de la simple imitation. Au lieu de se concentrer uniquement sur comment restreindre les écrans, comment est-ce qu'on pourrait innover pour utiliser la technologie différemment ? Comment la mettre au service de l'écoute, de l'imagination, loin de cette consommation passive d'images à laquelle on l'associe presque toujours aujourd'hui.